La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est notre cousin, véritable star de la préhistoire. Actuellement, il est sur tous les fronts avec une exposition au Musée de l'Homme, un documentaire inédit sur France 5 ce soir et de nombreux livres qui lui sont consacrés. Néandertal est donc au cœur de notre tête au carré cet après-midi pour brosser le portrait de cet homme et comprendre cette autre humanité à la fois lointaine et si proche. Et nous allons en parler avec nos invités. J'attends bien sûr vos messages, toutes vos questions sur Néandertal dès maintenant, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Catherine de Coppet, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et à la une de la science aujourd'hui, le narguilé et sa consommation chez les jeunes.
Deux études récentes nous apprennent que ce produit à base de tabac serait de plus en plus fumé par les jeunes américains. On fait le point dans un instant sur ces données et sur les risques de cette pratique avec la psychiatre addictologue Geneviève Lafaille.
Et Anne-Cécile Perrin réalise notre émission préparée aujourd'hui par Chantal de Montagny avec Anna Massardier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, donc une actualité chargée pour Néandertal. Aujourd'hui donc dans la tête au carré, Marilène Patou-Matisse, on se presse depuis le 28 mars pour venir voir monsieur et madame Néandertal au Musée de l'Homme. Ça démarre très fort. Hein.
Tout à fait, je suis très heureuse. Vraiment, c'est une belle réussite, surtout aussi pour tous les muséographes qui ont fait un gros travail du Musée de l'Homme. Mm-hmm. Donc ils nous ont accompagnés avec Pascal Depape, l'autre commissaire. Et on est vraiment très heureux. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Donc pour nous, c'est sympathique.
Bon, on fait la visite avec vous dans un instant. Jacques Malaterre, vous êtes co-auteur de ce film inédit « Qui a tué Néandertal ?». Ce sera donc diffusé ce soir 20h50 sur France 5, dans la case Science Grand Format. Et là, ce sera Néandertal façon les experts. Hein.
C'est façon les experts, oui. On a construit le film comme une enquête criminelle. Oui. On trouve une victime et on essaye d'établir son portrait robot. Oui. On fait une enquête de voisinage. Et vraiment, les paléontologues et les scientifiques ont joué le jeu et viennent comme des spécialistes, pour citer une autre série, éclairer la disparition de Néandertal.
On saura vraiment qui l'a tué à la fin du film ou pas?
Est-ce que je dois révéler le mystère à l'enquête?
Allez, on va patienter jusqu'à ce soir, 20h50. Antoine Balzo, l'image de Néandertal. Bon, elle a quand même bien changé depuis sa découverte au 19e siècle. Hein. Ça va mieux quand même. C'est presque une réhabilitation, tout ce qui se passe autour de lui là, en ce moment.
Ah, il y a encore tout un boulot à faire, aussi dans la conception qu'on a de la représentation des hommes préhistoriques. Parce qu'on met encore aujourd'hui quelques biais comme on pouvait en mettre par le passé.
Ouais, on va se retrouver dans un instant pour évoquer donc ce cousin néandertalien avec lequel nous partageons quelques gènes en commun et puis les auditeurs nous rejoignent avec les questions. Et à la une de la science aujourd'hui, le narguilé de plus en plus plébiscité par les jeunes.
Soirée canapé, mais jamais sans mon narguilé. D'autres fument la cigarette, eux ne jurent que par la chicha. Et la chicha deviendrait-elle plus tendance que la cigarette ?
Et cette étude menée par des chercheurs de l'université de Buffalo aux États-Unis qui vient de montrer que cette pratique était en hausse chez les jeunes adultes américains. Des résultats qui confortent ceux d'une autre étude montrant que le narguilé constitue le premier produit testé pour un quart des jeunes. Et on en parle, Catherine de Coppet, avec notre invitée.
Oui, en ligne pour en parler avec nous tout de suite, Geneviève Lafaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc psychiatre addictologue, responsable de l'unité adolescents et jeunes adultes du service addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Paris. Selon cette étude donc de l'université de Buffalo, le comportement des lycéens, en tout cas dans le New Jersey, c'était l'objet d'études. Selon cette étude, plus d'un jeune sur cinq déclare avoir déjà fumé le narguilé en 2014. C'est presque 5 points de plus qu'en 2008. Est-ce qu'une telle augmentation concerne la France? C'est une tendance qu'on observe également dans votre consultation?
Alors c'est vrai qu'au niveau des jeunes consommateurs, c'est vrai qu'on constate une grosse augmentation quand même du narguilé. Alors il y a l'OFDT qui est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, qui permet d'avoir une vue un petit peu sur les consommations des jeunes, notamment au travers de l'étude Escapade, qui a plutôt constaté une diminution en 2017 par rapport à 2014. En 2014, on était pour la chicha en gros 65%, et là maintenant on est à 50% des jeunes qui ont expérimenté la chicha, des jeunes de 17 ans. Donc ça reste quand même la moitié des jeunes, on n'est même pas sur 1 sur 5, on est sur la moitié des jeunes qui ont déjà essayé la chicha. Il y a un point qui est intéressant dans les données de l'OFDT, c'est qu'il montre que souvent la chicha, les consommateurs sont des consommateurs aussi de tabac, mais il y a une proportion de ces jeunes qui sont consommateurs exclusivement de chicha. Et pour cette proportion-là, le chiffre n'a quasiment pas bougé entre 2017 et 2014. C'est-à-dire que quand on parle de prévention, autant la prévention semble toucher pour le tabac l'ensemble des consommateurs, que ce soit du tabac classique ou de la chicha, entre 2017 et 2014. Pour les consommateurs que de chicha, ça semble pas être le cas.
Quand vous recevez les jeunes en addictologie, est-ce que vous recevez justement maintenant des jeunes qui ont ces problèmes d'addiction avec le narguilé, ou c'est très rare, puisque ça reste une pratique relativement marginale par rapport à la cigarette?
Bah, c'est pas une pratique qui est si marginale que ça, c'est une pratique qui est fréquente dans le cadre de nos consommateurs. Maintenant, c'est pas la demande de soins. La demande de soins va être pour d'autres produits, par exemple le cannabis, hein, notamment, l'alcool, mais en tout cas, même s'il y a une consommation de narguilé, ça va pas être la question de la consultation.
Mais est-ce qu'on peut être addict à cela ou pas du tout? C'est un produit justement qui rend pas dépendant.
Bah, on a les mêmes produits, si vous voulez, ça reste du tabac.
Alors peut-être
avec un mode de consommation qui est différent. Après, on a les produits dans le tabac qui sont aussi addictogènes que dans la cigarette. Avec en plus le phénomène, par la combustion qu'il va y avoir dans le narguilé, on va, comme la fumée est refroidie au moment où on va l'inhaler, on a tendance à absorber des bouffées plus importantes, et donc avec des toxiques plus importants aussi. Donc potentiellement, si on part de ce principe-là, on peut dire que ça rend plus addict. Après, il y a le phénomène qui est que on peut se balader avec un paquet de cigarettes dans la poche, on va pas se balader avec la chicha. Donc la
c'est
consommation
plus compliqué.
Va être plus ponctuelle au niveau de la chicha.
C'est sûr.
Geneviève Lafagne, on peut peut-être revenir justement sur le principe même du narguilé en précisant exactement quelles sont les différentes étapes par rapport à la cigarette, puisque vous dites qu'il y a le charbon de bois qui se rajoute, et donc ça, c'est une toxicité supplémentaire.
Ce qui va faire surtout la toxicité, c'est qu'on va inhaler des bouffées beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que quand on va tirer sur une cigarette, il y a un moment ça va chauffer, donc on va s'arrêter. Ce qui va pas être le cas avec la fumée du narguilé qui va être refroidie, parce qu'en fait la fumée va passer dans de l'eau froide, dans un vase, et ensuite va être inhalée. Donc le fait que ce soit refroidi, on a tendance à absorber de plus grandes quantités.
Alors quel est le discours qu'ont les jeunes aujourd'hui sur le narguilé? C'est une pratique qui est souvent moins perçue toxique par rapport à la cigarette, justement?
Ah oui, bah alors pour eux c'est principalement le côté festif. C'est vrai qu'il y a un point qui est souvent rassurant pour les jeunes, c'est quand ils sont ensemble, et dès qu'on consomme pas tout seul, c'est moins dangereux. Donc clairement, ça reste quand même une pratique de groupe. Il y a en plus un aspect qui est assez ludique, c'est du tabac avec des parfums différents, que ce soit la pomme, le caramel, etc. Donc vous mettez l'odeur qui est assez agréable, l'aspect convivial, tout ça fait que c'est moins dangereux. Et puis en plus, par rapport au tabac, on parle beaucoup de la combustion, de la dangerosité associée à ça. Et c'est vrai que quand les jeunes vont fumer une chicha, le fait que la fumée soit froide, pour eux, c'est quelque chose qui est très rassurant. Et en plus, ils s'imaginent que l'eau va filtrer. L'eau n'a rien d'un filtre, si vous voulez, et laisse quand même passer toutes les substances toxiques. En soi, ça n'a vraiment rien de toxique, sauf dans la représentation des jeunes.
Il y a aussi peut-être certains jeunes qui font certains mélanges, hein, qui mettent de l'alcool dans l'eau ou qui mélangent avec du cannabis. Ça, c'est des pratiques que vous observez?
Oui, moi c'est vrai que je suis une consultation qui voit quand même beaucoup de consommateurs de cannabis, donc clairement j'en ai quand même un certain nombre qui mettent du cannabis aussi là-dedans.
Alors selon la seconde étude menée par ces chercheurs américains, plus d'un quart des jeunes observés déclarent que le narguilé est le premier produit à base de nicotine qu'ils essayent. Est-ce que justement c'est là le danger du narguilé aussi, c'est d'être un premier pas vers d'autres consommations, notamment de cigarettes?
Le fait en plus qu'il y ait... Clairement, ça peut être un élément qui va nous préoccuper au niveau des jeunes. On sait que plus on consomme tôt et plus on va être à risque de derrière développer une addiction. Par cet aspect ludique, si vous voulez, convivial qu'il peut y avoir avec la chicha, c'est pas cher, on va s'y mettre à plusieurs. Donc on peut rentrer beaucoup plus vite dans une consommation, qui au départ va être ponctuelle effectivement, mais généralement une addiction commence toujours par une consommation ponctuelle. Donc c'est vrai qu'avec la nicotine, parce qu'il y a de la nicotine qui rend addict ce mode de consommation, on peut rentrer plus vite, plus tôt, dans un mode de consommation qui va pouvoir devenir de plus en plus régulier. Et après, pour avoir, si vous voulez, les mêmes effets, on va pouvoir passer à la cigarette plus facilement. Alors après, par rapport aux autres addictions, les résultats des études, c'est plus mitigé, mais clairement, comme porte d'entrée dans le tabac, la chicha semble être vraiment un point d'accroche.
Geneviève Lafaille, le début de notre discussion, c'est cette étude de l'Université de Buffalo, donc aux États-Unis. Est-ce qu'en France, on s'intéresse à cette question? Est-ce qu'il y a des études qui sont menées ou pas?
C'est surtout des études épidémiologiques, c'est-à-dire pour voir un petit peu le niveau de consommation et quels sont les consommateurs. C'est vrai que pour l'instant, c'était des pratiques qui étaient considérées comme marginales. On voit quand même dans les chiffres de l'OFDT que c'est plus si marginal que ça, qu'il y a quand même une dangerosité, hein, on est sur la même dangerosité, voire une dangerosité plus importante qu'avec le tabac. Après, pour pouvoir mener des études, il faudrait pouvoir mieux cibler aussi les populations pour mieux les étudier. Et c'est vrai qu'on voit chez les jeunes, que, enfin moi je m'occupe exclusivement de jeunes consommateurs, la population de jeunes consommateurs change, pas que au niveau du narguilé, mais au niveau de toutes leurs pratiques, ça change assez rapidement. Donc c'est une des difficultés.
Vous pensez, Geneviève Lafaille, que le narguilé est sous-estimé du coup dans les démarches de prévention aujourd'hui auprès des jeunes ?
Soupir.
Soupir.
On l'a bien entendu.
Il y a beaucoup de choses qu'ils ont sous-estimées actuellement dans la prévention auprès des jeunes.
C'est un ensemble, c'est ça.
On a des pour le narguilé comme pour le reste. Donc on est sur quelque chose d'assez précautionneux, alors qu'on a quand même des jeunes qui consomment de tout, tôt. Beaucoup, donc le narguilé en faisant partie, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont sous-estimées.
Oui. Marilène Patou-Matisse, est-ce qu'il fumait jeune, le néandertalien, ou
non,
pas?
Alors ça, c'est la question piège. Hein. Là, je ne sais pas, il n'y a aucun vestige qui le montre, mais il n'y avait pas de tabac, ça c'est sûr.
Il prenait des trucs,
on ne sait jamais, peut-être qu'il y avait des plantes, peut-être des champignons.
Ah oui, quand même. Non. Bon, on peut tout imaginer.
On peut tout imaginer.
Merci beaucoup, en tout cas, Geneviève Lafaille, merci Catherine de Coppet. On se retrouve demain pour une nouvelle Une de la Science.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, une très très grande mâchoire du Jurassique retrouvée sur une plage anglaise. Un groupe international de paléontologues de l'université de Manchester a découvert un os géant Dictyosaurus, une espèce de reptile marin préhistorique, vieux de plus de 205 millions d'années. Cet os de mâchoire trouvé sur la plage de Lidstock en Grande-Bretagne permet d'estimer la taille de l'animal à au moins 26 mètres de long, soit un mètre de plus que la baleine bleue. L'animal auquel appartenait la mâchoire serait donc 25% plus grand que le plus grand Dictyosaurus déjà connu, un résultat obtenu en comparant cette trouvaille avec d'autres ossements et squelettes de la même espèce. De la vie microbienne dans les nuages de Vénus, une étude publiée dans le journal Astrobiology donne une possible explication à la présence de taches sombres observées sur les images de cette planète. Si Vénus est particulièrement inhospitalière en raison de la présence de volcans, de plaines de lave et de températures supérieures à 450 degrés, les conditions environnementales de ces nuages pourraient en revanche être favorables à une vie microbienne. Selon l'équipe internationale du planétologue Sanjay Limay, les particules observées semblent avoir la même composition que les bactéries terriennes. Ne reste plus évidemment qu'à prouver cette hypothèse. Et puis mal dormir augmenterait les risques de développer la maladie d'Alzheimer, en cause l'augmentation des niveaux d'une protéine repérée chez les patients atteints de la maladie. Les chercheurs du National Institute of Health des États-Unis ont observé le cerveau de 20 volontaires pendant deux nuits, l'une reposante et l'autre limitée à 5 heures de sommeil. Lors de l'analyse du cerveau sur la nuit écourtée, les chercheurs ont constaté une augmentation de cette protéine, la bêta-amyloïde, dans deux régions stratégiques, notamment pour la mémoire, l'hippocampe et le thalamus. À l'heure actuelle, il est encore très difficile de savoir quand même si le manque de sommeil est un symptôme de la maladie ou s'il y contribue. Allez, Néandertal, dans un instant, c'est le dossier de l'émission.
Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Toujours autant de pluie chez moi. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau. Je viens de la terre du milieu, où y'a plein de petits vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, Julien Clerc dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau, il fait beau. Chez moi y a du
soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer.
Il fait quand même beau, il fait beau. Il fait beau, chez moi il fait beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Mais il fait quand même beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi il fait beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau.
Toujours autant de pluie chez moi.
Aurel San avec la voix de Stromae et la pluie.
La tête au carré sur France Inter.
Il y a 400 000 ans, cet homme a régné en maître sur l'Europe et l'Asie. Chasseur d'exception, il a vaincu les animaux les plus sauvages de la préhistoire. Adapté aux environnements les plus hostiles, il a laissé son empreinte des côtes espagnoles aux montagnes de la Sibérie. On l'appelle l'homme de Néandertal. Pourquoi a-t-il disparu? A-t-il été victime d'un changement climatique? D'une épidémie dévastatrice? A-t-il été exterminé par d'autres hommes? Ou bien a-t-il été la proie d'un terrible prédateur? Qui est le coupable?
Ah là là, toutes ces questions, Jacques Malater. Ce soir, on aura certainement la réponse, 20h50 sur France 5, Science Grand Format, qui a tué Néandertal? Et pour vous, un retour vers ces hommes préhistoriques que vous aimez tant, d'ailleurs.
Oui, que j'aime vraiment, parce que je pense qu'ils ont changé ma vie, parce que je crois qu'en s'interrogeant sur notre passé, on comprend mieux notre présent et peut-être notre futur.
Ouais, et puis il y avait eu A.O., le dernier Néandertal en 2010. D'ailleurs, on retrouve quelques images, évidemment, dans le film de ce soir, dans le documentaire.
Voilà, en fait, on a adapté avec Eric Pencas, qui est auteur du livre qui a tué Néandertal, ouais. Et Thomas Sirotto, qui est le réalisateur du film. Voilà, on a adapté le livre d'Eric Pencas, mais on se sert des images d'A.O., pour illustrer les propos du film, pour incarner finalement ce héros dont on parle pendant 90 minutes, mais pas du tout en suivant la narration du film.
Quoi. Non,
absolument. Thomas a vraiment réexploité, redonné un sens à mes images.
Et c'est avant tout pour illustrer les propos des scientifiques qui sont extrêmement nombreux. Sacré casting hier ce soir, parce qu'on a les meilleurs sur la question. vous êtes allés dans le monde entier pour les rencontrer. Et il fallait ça d'ailleurs pour explorer toutes les questions néandertaliennes, au fond.
Oui, il fallait ça parce que chacun est spécialiste dans son domaine. Avance à pas menu, mais fait en tout cas avancer la science.
Ouais.
Et la construction en type d'enquête du film, c'est-à-dire on part d'un corps découvert jusqu'à l'ADN, comme dans une enquête criminelle, il y a chaque spécialiste qui intervient, que ce soit pour l'enquête de voisinage, pour savoir comment ils vivaient, qui rencontraient, qu'est-ce qu'ils mangeaient.
Et vous les avez installés dans une grotte, donc on va retrouver par exemple Marilyn Patoumatis et Antoine Balzo. Enfin, sauf que Marilyn, vous étiez dans la grotte ou pas dans le documentaire, ou vous étiez plutôt au musée de l'homme
On était à la...
Vous avez filmé avec les...
Non, c'est-à-dire que c'est un subterfuge de la réalisation.
Oui.
Tous les scientifiques, pour qu'ils soient réunis...
Ah mais ça, il ne faut pas le dire, Jacques.
On a le droit. Moi, je crois qu'il faut savoir décrypter.
C'est pour ça que je restais très discrète.
Mais oui, parce que Marilène n'est jamais allée dans la grotte. En l'occurrence, elle avait un fond vert.
Ils avaient un fond vert et ça nous permet d'incruster, de les remettre dans la grotte. Mais on aurait eu du mal à les remettre dans les grottes. Ils passent une moitié de leur vie, donc on n'allait pas se permettre ça.
Marilène Patoumatis, justement, vous êtes préhistorienne archéozoologue, directrice de recherche au CNRS et co-commissaire, justement, de cette exposition Néandertal qui est à voir donc jusqu'au 7 janvier. On a du temps, mais alors ça démarre très très fort. Ça vous fait plaisir, évidemment, mais ça vous surprend, cet intérêt du public pour notre cousin, là?
Ah oui, là quand même, on est vraiment très très surpris, mais à la fois on avait quand même des prémices. On sent bien qu'il y a un intérêt pour toute l'histoire,
ouais.
Et l'histoire lointaine de l'humanité. Il y a quand même depuis un petit moment. Alors peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait aussi pourquoi ce grand intérêt. Et on se pose cette question, notamment en disant, moi je le vois dans mon évolution, ça fait un petit moment que je suis avec Neandertal, si j'ose dire, et j'ai vu à travers les conférences et tout que les questions changeaient, que la vision changeait, et c'était notamment maintenant, avant on était plutôt à dire, vous savez, Neandertal n'est pas inférieur, etc. Donc là on tient à le remettre à sa juste place. Ouais. Et maintenant je suis obligée de dire, attention, il n'est pas non plus supérieur.
C'est ça, on va presque dans l'excès inverse.
Hein, exactement, ouais. Et ça je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire, peut-être, je ne suis pas sociologue, ça veut dire peut-être que, en fin de compte, beaucoup de personnes n'aiment pas ce que l'Homo sapiens est devenu. Je pense que pour eux, ils ont une vision de l'Homo sapiens actuel qui est toujours, justement, encore maintenant, regarder les guerres, les conflits, les massacres, la destruction de la planète. Donc, ils sont un peu dans ce rejet de l'Homo sapiens. Donc, on cherche une espèce de modèle. Et là, je pense qu'il faut être très prudent et faire attention. Ne tombons pas dans ce piège de la hiérarchisation.
Et puis, des guerres, il y en a eu aussi chez Néandertal, non?
Non,
enfin, pas des grands conflits, mais il y a eu
mais les guerres, c'est des contextes qui provoquent des guerres. Et quand les contextes ne sont pas réunis, donc je pense que là, au niveau de Néandertal et même de tout le paléo, c'est un peu plus difficile de retrouver des contextes qui engendrent la violence. Ouais. Mais là, c'est en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a ce changement et d'un seul coup, tout le monde, j'exagère, beaucoup de gens veulent être Néandertal et plus du tout ça.
Alors là, il faut dire, parce que c'est aussi un des attraits de l'exposition, c'est qu'on le voit aussi au travers des âges et au travers des représentations qu'on a pu en avoir. Mais alors aujourd'hui, je le disais en plaisantant tout à l'heure, mais vous avez un Néandertal, mais ultra sexy hein, dans l'exposition.
Il y a mon chouchou, je dois dire, et que je ne connaissais pas bien, je ne l'avais jamais vu de près, je l'avais vu comme image.
Vous allez l'adopter à l'issue de l'exposition.
Et là, on l'a adopté parce que alors, c'est la représentation de l'homme de Spi. Ouais. Et qui est très intéressante, elle a été faite en 1997, hein, donc elle est relativement récente, elle est en bois. Et alors là, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une espèce, on reconnaît, hein, il a quand même vraiment les caractéristiques morphologiques. Mais il est traité de telle façon.
Il sort de la salle de gym, quoi, en gros.
Exactement, hein. C'est-à-dire qu'il a des beaux abdos.
Et en plus, il est nu.
Il est nu.
Voilà.
Et je vous dis pas en détail.
Il faut aller voir l'expo.
Nous sommes dans la Rome antique.
Non, mais quand on avait fait la sortie d'AO, le dernier Néandertal, on avait fait un Science of, un documentaire dessus. On avait pris mon acteur Simon Paul Sutton qui jouait AO. Oui. On l'avait grimé en Néandertal, c'est 4 heures de maquillage. Oui. Et on lui avait mis un costume. Et on l'avait lâché sur les Champs-Élysées. Et ben finalement, personne ne le remarquait. Ou les gens se disaient, c'est peut-être un chanteur de rock. Ouais. Mais c'est tout.
Il fallait essayer de le faire promener tout nu. Ça aurait eu plus d'effet.
Est-ce que c'est son visage qu'on aurait regardé?
Un chanteur de rock aurait pris beaucoup de substance quand même. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans le visage qui accroche. Hein.
Voilà.
Alors d'ailleurs, on voit aussi une néandertalienne qui a fait la une d'ailleurs du cahier Sciences et Médecine du Monde il n'y a pas si longtemps. Et qui, alors là, pareil, sous les mains d'Elisabeth Dénès. Hein, voilà. Parce que c'est elle qui fait ses reproductions, qui est extraordinaire quand même. Hein.
Alors justement, ce qui était intéressant là, à travers. Elle s'appelle Kinga. Donc la représentation de la restitution par Elisabeth Dainès, habillée aussi par une grande couturière, je ne sais pas si on a le droit de dire son nom, je me fais attention. Et donc ce qui était intéressant, c'est de quand même de à travers elle, parce que c'est vrai qu'elle est agréable, elle est sympathique, tout ça, mais c'était de montrer que l'ADN, les dernières données de l'ADN permettaient aussi de pouvoir donner une apparence un peu plus crédible, par exemple la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Donc là on s'est basé sur des renseignements qu'on avait d'après les généticiens. Elle est rousse. Et puis elle a les yeux noisettes.
Ouais. Et elle est féministe parce qu'elle a Cosette dans les mains.
Oui, ça c'est non mais ça c'est de ma faute. J'avoue parce que c'est vrai qu'on dit toujours les hommes, même si on dit l'homme de Néandertal, on entend les Néandertaliens, mais quand même il y a une place énorme à l'homme et pas du tout à la femme. On a l'impression que la femme dans la préhistoire n'existe pas, qu'elle est là comme je l'avais dit déjà pour balayer la grotte. Donc je pense qu'il faut peut-être remettre sa juste place à elle aussi.
Voilà, et Marilène Patou-Mathis, vous publiez Néandertal de A à Z aux éditions Alary, effectivement. Un abécédaire pour tout connaître les aspects très différents, en tout cas à la lumière de la science aujourd'hui. Antoine Balzo, alors ce néandertalien qui attire le public là, en ce moment, qu'est-ce que ça dit au fond de notre perception sur ces hominidés? Est-ce qu'on a compris aussi qu'on avait une appartenance quand même avec cet homme préhistorique?
C'est un peu compliqué, je ne sais pas pourquoi les gens viennent au musée, sûrement parce qu'ils ont eu de bons échos de cette exposition, parce qu'elle est très réussie et qu'ils viennent la voir.
Ce serait intéressant d'aller dans la rue pour savoir ce que les gens connaissent de Néandertal. C'est Marilène Patou-Mathis qui a suggéré ça l'autre jour, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, il faudrait faire un micro-trotte pour voir ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui ressort à votre avis de ce personnage et pourquoi est-ce que finalement on est fasciné par lui?
On est fasciné parce qu'il est à la fois proche de nous, mais c'est aussi un des problèmes, c'est qu'on a de tout temps cherché à catégoriser. Et évidemment, historiquement, il y a 150 ans, il n'y avait que l'homme actuel pour étudier. Donc la comparaison, c'était l'homme actuel. Mais même récemment, justement, il y a cette erreur qui est de considérer que nous sommes quelque chose d'ultime et de comparer. C'est pour ça que la classification de Néandertal, moins bien que nous, meilleur que nous, pendant longtemps, c'est un biais lié à notre manière d'étudier. Et c'est pour ça que les chercheurs ont quand même fait des progrès en paléoanthropologie. Mmh. Et on se rend compte maintenant que l'anatomie du néandertalien, c'est aussi quelque chose de vraiment différent. C'est une adaptation à des conditions différentes et à un mécanisme, à une bipédie, à un cerveau, à une manière de vivre différente. Et que la biologie fait ça parfois. Mmh. Des êtres vivants totalement différents sans qu'il y ait forcément de bonnes raisons.
Alors avec Karine Balzo, vous avez publié aux éditions du Chêne un guide de survie sur les traces de Néandertal. Donc là pareil, on apprend plein de choses depuis la découpe des pierres, par exemple, jusqu'à la découverte des tout premiers néandertaliens. Et c'est une histoire belge, d'ailleurs, au tout départ, les premiers fossiles qui ont été retrouvés.
Les premiers, oui, mais ils sont passés assez inaperçus. Un au sud de l'Espagne et puis un en Belgique. Vraiment inaperçus, simplement parce qu'il n'était pas imaginable pour les hommes de la première moitié du 19e siècle de voir des hommes différents. On n'avait aucun homme fossile. Oui. La seule connaissance de la diversité humaine, c'était celle qu'on voyait en se promenant dans la rue ou en faisant des voyages.
Donc c'était un véritable choc. Et combien de temps ça a mis, finalement, entre la découverte vraiment des deux squelettes adultes et puis l'identification comme étant une autre espèce, précisément ?
Alors ça a été proposé assez vite, mais la vraie acceptation, c'est aussi une histoire belge, c'est à peu près au moment de la découverte de Spy, quand il y avait assez de spécimens d'anatomie similaire pour enfin accepter que ce n'était pas des cas pathologiques, des cas extrêmes, des choses différentes liées à l'humanité, comme c'est presque le débat à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile.
On va écouter justement Dominique Cliquet, qui est archéologue à l'université de Rennes, qui a découvert le site du Rosel dans le Cotentin, révélant un habitat domestique complet, et on pourra l'entendre ce soir dans ce documentaire.
Sur ce littoral, Néandertal, il y a 80 000 ans, a vécu avec son clan, sa famille et ses enfants.
Et c'est d'autant plus poignant qu'on a eu beaucoup d'empreintes de pas d'enfants, de petits pieds d'un bébé, un gosse d'un an qui commence à marcher. Là, on a la possibilité de toucher le quotidien. Quand vous avez une piste de pas, le néandertalien, vous avez l'impression qu'il vient de passer. On se retourne presque pour voir s'il n'est pas derrière vous.
Voilà, et c'est vrai que ça, on le verra ce soir dans le film, au bord de la plage. Mais c'est inouï quand même de découvrir dans du sable des traces de pas néandertaliens quand même.
Oui, c'est un moment très émouvant du film parce qu'on a l'impression qu'ils sont passés là hier.
Ouais.
Et alors que bon, les empreintes étaient ensevelies sous des mètres de sable, mais ouais. c'est fascinant parce que c'est une empreinte, c'est vivant. Il y a des traces d'adultes, il y a des traces d'enfants. Voilà, ils sont passés là. Et, ouais. et c'est un grand moment d'émotion dans ce film-là parce qu'on touche des doigts l'enveloppe charnelle. Pas l'outil, pas l'objet, pas l'arme, l'enveloppe charnelle.
Et Marilène Patomatis, on voit avec quelle minutie justement les archéologues nettoient au pinceau chaque grain de sable pour justement ne pas altérer ces pas d'enfants d'adultes aussi d'ailleurs.
Il faut faire extrêmement attention. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu tout de suite des moulages qui ont été faits. Mm-hmm. Et on en présente quelques-uns d'ailleurs dans l'exposition. Parce qu'évidemment, c'est quand même extrêmement fragile. Donc il faut tout de suite les protéger et les conserver. Mm. Puisque vous savez très bien que l'archéologue détruit ce qu'il dégage.
Allez, on se retrouve dans un instant. On poursuit la découverte de notre cousin néandertalien et vos messages sur franceinter.fr.
Dream of a land my soul is from. I hear a hand strong on the drum. Shades of delight go you. Reaches the night. Afro, Afro blue.
Avec Mélanie de Biasio à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Les humains d'aujourd'hui portent beaucoup de variations dans leur génome. Les variations apportées par Néandertal sont soit positives, soit négatives. Certaines de ces variations nous protègent contre des maladies et d'autres augmentent notre risque d'en développer. Par exemple, une variante néandertalienne augmente le risque de développer un diabète de type 2.
L'analyse de l'héritage de Néandertal est loin d'être terminée. La génomique, la science de l'expression de nos gènes, ne nous permet pas encore d'avoir une vue d'ensemble des apports de notre ancêtre. Ces apports génétiques, comme des souvenirs, sont notre histoire. L'histoire de notre espèce. Mais elle est aussi celle de la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal.
Voilà, qui est le Néandertal ce soir, France 5, 20h50. Et puis l'exposition donc à voir en ce moment au Musée de l'Homme avec mes invités Marilène Patoumatis, Jacques Malaterre et Antoine Balzo. Alors justement, la piste génétique, Antoine Balzo, ça a beaucoup aussi changé la vision qu'on avait de Néandertal. Et c'est très récent.
Oui, et c'est allé très loin, mais la voix off, là, dans le commentaire, donnait une bonne image de ce qu'on sait. C'est important de contextualiser. C'est vrai que ça apporte des nouvelles informations, mais qui restent superficielle et pas complète. On n'a que des bouts de gènes de Néandertaliens et on essaye de les interpréter. Et à chaque fois qu'on y voit une fonction, une utilité, il faut rappeler aussi que ces gènes-là peuvent parfois fonctionner pour cette fonction-là chez les hommes actuels, mais pas nécessairement, et puis peuvent aussi servir à autre chose.
Absolument.
Donc il y a toujours une difficulté dans l'interprétation des gènes, il ne faut vraiment pas croire à chaque fois qu'on nous dit, on a eu droit à la culotte de cheval, la schizophrénie,
le tabac,
plein de gènes qui ont la vérité de tous les mots de Néandertal.
Alors ça, c'est un peu la difficulté pour un documentaire, d'ailleurs peut-être Jacques Malaterre, c'est qu'il faut parler au grand public, donc il faut essayer de lui donner des clés très identifiable. Donc là, on associe un gène à tel caractère, mais en réalité, effectivement, il faut être très précautionneux.
Il faut avancer avec prudence, et bien sûr, sous le regard des scientifiques. Et en même temps, il faut arriver à simplifier suffisamment les choses et à se poser un peu moins de questions que se posent les scientifiques, sinon on n'oserait rien dire et rien montrer.
Ouais. Antoine Balzo.
Oui, en fait, c'est le rôle de documentaire de montrer ça, et là, c'est vraiment bien fait. Mais c'est aussi le travail des scientifiques de ne pas aller dans l'excès de l'interprétation et pas de communiquer des choses trop généralistes. Mais tout de même, l'ADN a quand même permis d'affiner un peu ces idées de l'apparence de Néandertal.
Marilène
Patoumatis. Je voulais juste ajouter qu'il faut faire attention parce que c'est vrai qu'on a tendance, c'est plus facile pour le public, et je le comprends, même moi, on tourne tous dans ce défaut, l'homme de Néandertal, c'est 350 000 ans, et encore peut-être, même, on va dire plus bientôt. Et c'est plusieurs groupes. C'est-à-dire qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que ceux qui étaient il y a 350, 200 000 ans, 50 000 ans, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes à la fois physiquement, biologiquement, à mon avis, et aussi culturellement. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, je pense que là aussi, on aura peut-être des choses qui sortent, qui sont plutôt pour des gènes récents. Parce qu'on a fait sur Vindia beaucoup d'analyses, par exemple, que je connais très bien, la grotte de Vindia, j'y ai travaillé.
C'est où,
donc en Croatie, où là, on a fait beaucoup de, sur ces, il y a deux, notamment, deux néandertaliens. néandertaliennes sur lesquelles on a travaillé beaucoup, enfin les généticiens. Bon, là, c'est ces femmes-là. Donc, je veux dire, là aussi, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de générations, voilà, des plus anciennes néandertaliennes aux plus récents.
Vous voulez dire que...
vrai qu'on a tendance à... Et même entre, moi qui travaille surtout en Europe orientale, entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale, on a aussi des différences. Donc, là, c'est vrai que je pense qu'il y a plein de choses, comme disait tout à l'heure Antoine, il y a plein de choses à découvrir. C'est-à-dire que là, on a l'impression que plein de choses arrivent, beaucoup, mais on a encore plein de données à trouver, des vestiges, des analyses à perfectionner, parce que c'est très vaste. Le territoire néandertalien, si bien dans l'espace que dans le temps, c'est très vaste.
C'est-à-dire que Néandertal n'a pas vécu que dans le Périgord ?
Non, je rassure certains, mais...
important, parce que finalement, on a toujours cette image du sud-ouest.
Voilà, exactement, du Pays de Galles, du sud du Pays de Galles, jusqu'à l'Altaï, un petit peu au sud, en Ouzbékistan, et au Proche-Orient. Donc, vous voyez, il y a un vaste territoire.
Je crois, que la préhistoire donne le vertige du temps. Parce que, voilà, on a tendance, nous, les homo sapiens, à s'attacher à nos deux petits 2000 ans, là, et à dire que tout s'est fait. Or que le reste, c'est fait sur 350 000 ans, 400 000 ans. Et c'est cette notion de temps qu'on a du mal à percevoir dans la préhistoire. Je me souviens d'une phrase qu'on avait mis en voix off dans l'Odyssée de l'espèce sur la découverte du feu. On disait, le feu a été découvert partout au même moment en 50 000 ans.
Ouais. Alors justement, quand est sorti à eau le dernier Néandertal, Jacques Malaterre, donc 2010, on venait tout juste de comprendre qu'il y avait eu métissage quand même entre Néandertal et Homo sapiens.
Même pas.
C'était
dans le film. Mais en fait, c'est Marilène qui m'a accompagné comme conseillère scientifique, mais avec la garantie, je connaissais assez bien Marilène, pour qu'elle me laisse ma licence poétique. C'était une fiction, Néandertal.
Ah, c'est ça.
C'était pas un documentaire fiction.
C'est ça.
Et donc, dans cette fiction, j'ai
eu
croisement qui est hybridation.
C'est ça.
Et il se trouve.
Et juste après.
En mai 2010.
C'est-à-dire six mois avant la sortie du film, c'est-à-dire le film est sorti en octobre, et en mai 2010, on a la révélation. Ce qui a fait dire à certains journalistes que soit j'étais au courant, ou le film qui a tout prévu.
Ouais, c'est ça.
Des fois, la fiction rattrape la réalité.
Bon, il y avait quand même des faisceaux de présomption, alors, sur cette question, Antoine Balzo, du métissage ou pas ?
Avant, certains chercheurs le pensaient, mais en comparant des crânes et en proposant des ressemblances. Et c'est toujours difficile de travailler juste sur de vagues ressemblances. Mmh. Honnêtement, avant la trace ADN, il n'y avait pas d'éléments vraiment sérieux permettant de dire que c'était arrivé. Ouais. C'était vraiment inattendu, cette découverte.
Ouais. Mais alors ça a tout changé quand même, Marilène Patou-Mathis. Vous, dans votre vie d'historienne spécialiste de Néandertal, cette date de 2010 avec vraiment ces révélations génétiques, c'est-à-dire qu'il y a eu croisement, Néandertal, Homo sapiens se sont aimés et nous portons en nous aujourd'hui 2 à 4% de gènes pour ceux qui ne sont pas nés, pour ceux qui sont nés hors de l'Afrique. Ça a été quand même un changement inouï, non ?
Mais je pense que ça fait partie d'une des causes de ce changement de regard sur les Néandertaliens. Je pense que là, ça a beaucoup bouleversé. Voilà, peu de gens aimeraient avoir des gènes d'un inférieur, d'un singe inférieur. Je pense que ça a participé à ça. Et je crois que ce qui est intéressant surtout, c'est que nous avons la chance actuellement, non seulement d'avoir de plus en plus de matériel, parce qu'il faut revenir au terrain. La préhistoire, c'est avant tout le terrain, les fouilles. C'est ça qui est bien dans le film de Jacques et de Thomas. C'est qu'on revient aussi sur le terrain et on revient sur les objets, sur les vestiges. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail aussi d'investigation, et on a la chance d'avoir des moyens maintenant d'investigation sophistiqués qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin.
Ouais. Mais vous, quand même, en tant que spécialiste de Néandertal, ça a dû vous toucher quand même savoir que vous portiez même ces gènes néandertaliens.
Oui, c'est sûr que... Non, mais c'est vrai que c'était... C'est impressionnant parce que, en fin de compte, on travaille sur un sujet, puis d'un seul coup, ce sujet vous emporte, vous... Je sais pas comment on peut dire, vous imprégnez. Mais je crois qu'il faut quand même raison garder et peut-être aussi ne pas... Parce que c'est le défaut quand on aime quelqu'un de trop voir les qualités sans voir les défauts. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Et surtout en tant que chercheur, et à un moment donné, un peu se dire bon, attention, ne tombez pas dans des excès que je reproche, moi, à ceux qui disaient que c'était un inférieur. Mais c'est vrai que c'est assez émouvant. Mais je dois dire, je suis encore insatisfaite. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est pas encore suffisant dans la connaissance. Je voudrais que les travaux avancent, qu'il y ait peut-être 10 ans de recherche en génétique pour aller plus loin, voir vraiment ce que ça veut dire, voir si vraiment nous sommes d'une espèce différente, par exemple. Ouais. Moi, j'interpelle et je discute beaucoup des anthropologues et paléanthropologues. Il y a quand même un débat. Maintenant, c'est ça que ça veut dire quelque part au fond. Est-ce qu'on n'est pas en train de peut-être de commencer à dire, voyons les choses. Est-ce que il n'y a pas seulement une seule espèce
hein.
Voilà, parce que je connais certains paléanthropologues, c'est leur thèse de dire peut-être que il y a les sapiens, il y a les néandertaliens, il y a l'homme de Denisova. Tout ça, en fin de compte, ça serait une seule espèce à l'intérieur, donc une variabilité d'ordre sous-espèce. Il y a le débat. Alors moi, je ne sais pas, je suis pas spécialisée du tout dans l'anthropologie, mais moi, ça m'intéresse de savoir ce que ça veut dire tout ça, qu'est-ce que c'est, quelques gènes néandertaliens, enfin, aller plus loin, c'est ça qui est passionnant, justement, et peut-être, dans les années très loin, savoir ce que, justement, ces gènes veulent en nous.
Et ça, c'est la génétique qui va nous le dire, Antoine Balzo?
Qui va nous donner une solution.
Toutes ces questions, justement, sur savoir si nous sommes des espèces différentes ou au contraire
une même unique. En fait, ça a apporté une partie de la réponse, justement. Et c'est assez paradoxal. Déjà, il y a un autre paradoxe, c'est qu'on parle de 2% alors qu'on est commun à 99,8% avec les Néandertaliens.
C'est-à-dire qu'en fait,
On est presque identiques. Il y a peu de différences. Mais il y a peu de différences parce qu'on est séparés depuis peu de temps. Mmh. On est deux espèces, sœurs, qui se sont mises en parallèle l'une à l'autre. Et quand il y a eu un échange, c'est un petit bout de gène qui nous est arrivé, mais qui était déjà quasiment identique. C'est juste quelques petites déformations qui sont passées dans notre génome. Mais ça n'a pas été que le cas entre Néandertal et Sapiens. Ça a été aussi le cas dans l'autre sens. Et ça a été le cas avec Denisova et probablement un autre groupe humain. Mmh. En fait, les humanités de l'époque, au moins quatre, pouvaient de temps en temps échanger des gènes.
Il y a eu du brassage, quoi.
Il y a eu du brassage et finalement, en contextualisant ça, en se rendant compte de l'impact que ça a, en comparant avec ce qu'on connaît de la biologie aujourd'hui, on connaît des espèces interfécondes sur Terre, le grizzly et l'ours blanc, il y a des primates qui sont séparés depuis des millions d'années qui peuvent se reproduire entre eux. Et finalement, la paléogénétique a donné un élément qui supporte plutôt l'idée biologique de différence des groupes, avec quand même des possibilités très occasionnelles. C'est aussi le résultat de cette étude-là. Ça montre que c'est rare, ces passages de gènes, et donc il y a vraiment des espèces humaines différentes.
Ça s'est passé quand, d'ailleurs, ce croisement entre...
Ça s'est passé plusieurs fois. Ah, c'est ça qui est miraculeux, et dans tous les sens.
Ouais. Donc, s'il fallait les dater, au moins, pour donner une idée à nos auditeurs...
Eh bien, il y en a eu un vers 70 000 ans. C'est celui qui nous a donné quelques pourcents, mais il y en a eu un autre vers Homo sapiens, vers les Homo sapiens qui ont vécu en Europe. Le plus vieux qu'on connaisse en Europe, Homo sapiens, a 15% de ses gènes d'un néandertalien parce qu'il avait un arrière-arrière-arrière-grand-père néandertalien.
Et ça, c'était quand, alors, a priori?
C'était il y a 40 000 ans.
40 000 ans, oui.
En Roumanie.
Avant l'extinction de Néandertal, on est très près là, de l'extinction.
Ça nous donnait centre en Roumanie. Ouais.
Allez, on se retrouve dans un instant, suite et fin de notre discussion autour de Néandertal et vos messages qui arrivent. Je vous les transmets dans un instant.
D'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bail, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vie. Et je roulerai dans la nuit en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé une belle nuit à Québec, en te caressant avec des beaux becs. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en te caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt dans un barando. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule la baie sur du papier. Je mange des hot dogs, mais je bois du thé. Je suis un Satan's Choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, je m'achète des beaux vieux habineux. Je suis un bon de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des gâtés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper. Avec Aline pourvu que ça pine. Avec Thérèse presque.
Et il roule, Robert Charlebois avec les ailes d'un ange.
La tête au carré.
Et nous sommes avec notre cousin néandertalien, Marilène Patoumatis, Jacques Malaterre et Antoine Balzo. Antoine Balzo, vous avez également publié 33 idées reçues sur la préhistoire aux éditions Belin. Pourquoi 33 d'ailleurs ?
Par hasard, oui. J'en avais 34. Finalement, il y en a une qui était moins bien que les autres, donc on est resté sur 33.
Ça. Et qu'est-ce que vous nous racontez dans cet ouvrage alors sur les idées reçues ? Parce que là, ça concerne le monde entier, le monde de la préhistoire en son entier.
Oui. Mm-hmm. Le propos, c'était d'apporter une vision un peu décalée, donc de traiter de sujets plutôt sérieux mm-hmm. en science, mais plutôt que d'être toujours dans la même manière de le faire, essayer de le montrer de manière humoristique à la fois dans les mots, en expliquant à chaque fois de manière vraiment décalée ses idées reçues, illustrées après par Olivier Nadel sur des planches entières ouais. pour vraiment aller loin dans le décalage, mais que ce soit vraiment prêt aussi des idées qu'on peut avoir et après les décrypter. Le plus clairement possible ouais. pour essayer de leur tordre le cou.
Vous êtes en Indiana reçues. Jones d'ailleurs dans ce livre me semble-t-il. Hein.
C'est pas très flatteur d'ailleurs, je suis à côté de lui.
Ouais. 33 idées reçues sur la préhistoire aux éditions Belin. Marilène Patoumatis, Néandertal de A à Z chez Alary Éditions. Comment on fait le choix d'ailleurs des entrées d'un tel ouvrage?
J'ai eu beaucoup de mal à faire le choix. Ouais. C'est mon éditeur à un moment donné qui a dit bon, ça fait 600 pages, faut peut-être t'arrêter. Voilà. Non, parce que je souhaitais mettre à la fois des entrées très très plaisantes comme cure-dents, plantes, etc. Mais aussi des entrées de sites parce que bon, je veux pas me faire mon Indiana Jones en disant l'archéologie c'est du terrain, mais c'est ça. Donc j'ai mis aussi des sites mm-hmm. archéologiques qui sont passionnants parce qu'ils ont livré des squelettes ou des restes de néandertaliens. J'ai fait aussi des entrées, vous savez que ça me touche beaucoup sur ce que veut dire la race inférieure, ce que veut dire remplacement. En ce moment, certains parlent de remplacement donc des Néandertaliens par les sapiens. C'est-à-dire que d'un seul coup, on voit l'actualité qui rentre mmh. là aussi dans l'histoire du passé. Donc de mettre aussi sur les dernières nouveautés justement à propos de l'ADN. Donc voilà, il y a plusieurs entrées de plusieurs types mmh. et un peu pour tout le monde, c'est un peu pour picorer, voilà.
Ouais, et puis ce sont aussi les dernières recherches et les dernières découvertes. Et Dieu sait s'il y en a, mais régulièrement sur Néandertal, on s'en fait l'écho ici dans l'émission. Je me souviens d'ailleurs, j'ouvre la page 144 sur le mot col.
Oui,
c'était très récent
sûr.
Ça. C'est-à-dire que Néandertal utilisait de la glu.
Oui, et les cols est notamment quelque chose qui est très compliqué à faire, même si on peut avec dextérité le faire facilement, mais quand même c'est à partir du bouleau, des corses de bouleau, donc il faut chauffer, mais pas trop, etc. Donc il y a toutes ces nouvelles découvertes, les pigments, et bien sûr il y a aussi la discussion, là je fais une grande discussion sur artiste, mm-hmm. bien que j'aime pas trop ce terme, mais parce que là aussi on refuse à Néandertal, on refusait la même chose en préhistoire pour les hommes, pour les sapiens, pareil jusqu'en 1902 où Cartaillac a dit, en fin de compte, non, c'est vrai qu'Altamira a été peinte par des hommes fossiles, donc par Cro-Magnon.
Grand espagnol.
Voilà. Et là, maintenant, on discute sur la même chose au niveau des Néandertaliens. Est-ce que on a les représentations abstraites, géométriques qu'on a trouvées dans les grands espagnols? Est-ce que c'est vraiment Néandertal? Donc là, il y a un vrai débat qui rappelle le débat qu'il y a eu au début du XXe siècle à propos des Cro-Magnons artistes.
Cécile nous dit sur franceinter.fr, Jacques Malaterre, et le film La Guerre du Feu, est-ce qu'il représentait fidèlement l'homme de Néandertal? C'est pas sympa de vous poser cette question, parce que c'est le film d'un confrère. Donc,
Oui, c'est le film d'un confrère, mais en fait, c'est le film d'un confrère qui, il y a plus de 30 ans, a eu le courage de mettre sur les écrans la préhistoire, donc il faut le saluer pour ça.
Ouais. Après, il y avait beaucoup de Néandertal dans La Guerre du Feu, il me semble.
Oui,
que
oui,
c'était
il y avait de tout. Il y avait du sapiens, Homo sapiens, du Néandertal, et même de l'Homo habilis, enfin une
c'est
espèce de créature velue, Homo erectus dégénéré. Et bon, alors, il y a sa décharge. La science n'avait pas, on savait pas tout sur Néandertal comme on le sait aujourd'hui. Ouais. Et après, je sais par les paléontologues que travaillent avec lui qu'à un moment donné, d'être trop près de la science, ça lui a fait peur sur le domaine de la fiction. Donc il lui fallait des très méchants, des très bêtes,
ça.
Et des très jolis qui étaient les sapiens.
Et ça, c'était il y a 30 ans.
Mais je sais pas, Mathieu, si vous en souviens, mais celle qui amène la civilisation, la modernité, c'est quand même une femme là, dans ce groupe.
C'est vrai. Vrai. Elle amène le feu, d'ailleurs.
Elle amène tout. Puis elle amène aussi. Alors, c'était un peu anachronique. On voit même des poteries. Bon, là, c'est un peu anachronique. Mais voilà, je voulais simplement signaler
ça. Mais vous aviez raison, Marlène Patou-Matisse. Hervé, sur Facebook, Antoine Balzon nous dit « Et les Denisoviens dans tout ça ?» Alors, autre espèce aussi ?
Eh ben, c'est mystérieux, Denisova, parce que pour le moment, ils sont juste définis sur des séquences génétiques.
Oui. On a retrouvé quoi, une dent, c'est ça?
Trois bouts de dents, un bout de phalange pour le moment.
Et on crée une nouvelle espèce.
Non, c'est pas ça. En fait, les gènes sont clairement différents de sapiens et de néandertal. C'est indiscutable.
Donc c'est une nouvelle espèce. C'est une autre espèce.
C'est autre chose. Pour le moment, ils n'ont jamais prononcé le mot espèce, les découvreurs. Ouais. Ils continuent à chercher, ils trouvent de nouveaux restes et peut-être aura-t-on bientôt un bout de crâne de Denisovien à se mettre.
Alors comment on le présente? Comment on le présente, l'homme de Denisova?
En général, on dit Denisova.
Denisovien, on ne parle pas d'espèce, c'est une erreur à ne pas commettre.
Ah oui, il ne faut pas parler d'espèce, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, on n'a que la grotte de Denisova, où on a un peu de vestiges archéologiques, des silex, etc., mais on ne sait rien, c'est-à-dire qu'on sait beaucoup plus de choses par Aden, on sait qu'il a été se promener très loin en Asie, mais en réalité, au niveau de sa culture, au niveau de ses comportements, on ne peut quasiment rien dire, il n'y a que la grotte de Denisova pour l'instant.
Allez, encore un extrait du film Qui a tué Néandertal, à voir ce soir donc sur France. Autour justement des analyses du tartre dentaire.
Je recherche dans le tartre des résidus de végétaux, comme des grains d'amidon ou des fossiles de plantes. Ces éléments se sont formés durant la vie de la plante et sont conservés à travers le temps. La forme et la taille de ces résidus permettent de retrouver de quelle plante il s'agit.
Ces résidus végétaux indiquent que Néandertal mangeait des plantes, comme de l'orge, des tubercules, des racines de nénuphars ou même des dattes. Mais Amanda Henry a trouvé autre chose.
Certains échantillons de tartre néandertalien contiennent des grains d'amidon gélatineux et altérés. C'est une preuve très directe que Néandertal chauffait ses aliments. Reste à trouver la recette.
Voilà, c'était Amanda Henry, chercheuse à l'université de Leiden aux Pays-Bas, donc qui travaille sur le tartre dentaire. Et c'est la voix de Thierry Frémont d'ailleurs qu'on entend.
Oui, tout à fait. C'est Thierry Frémont qui avait déjà fait le tartre de l'homme pour moi.
Ouais. Marlène Patou-Matisse, cette question justement de Paul. L'homme de Néandertal n'était pas forcément un carnivore, plutôt omnivore, consommation de plantes, de poissons. Qu'en est-il du développement des Néandertaliens face à ce type d'alimentation, demande-t-il. Qu'est-ce qu'on connaît exactement?
Oui, c'est vrai qu'avant on avait une vision d'une alimentation extrêmement carnée. Alors cette alimentation reste carnée, mais on s'est aperçu que c'était pas seulement que des grands mammifères, qu'il y avait aussi, par exemple, beaucoup de produits de la mer, pour ceux qui étaient bien sûr au bord de la mer, des coquillages, notamment des moules, des huîtres, et surtout donc tout cet apport de végétaux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image là aussi de Néandertal forcément change un peu, parce qu'avant on voyait un Néandertalien avec un gros morceau de barbaque bien saignante dans la bouche. Maintenant, si on lui fait manger une galette de céréales, c'est donc de graminées sauvages,
sans gluten,
ça change un peu l'image, mais ça je dis en souriant, mais en fin de compte c'est quand même très important. Parce que là, évidemment, c'est pas du tout la même vision.
Alexandra demande, est-ce qu'il y a des traces de violence entre Homo sapiens et Néandertal qui ont été enregistrées, Antoine Balzo?
C'est difficile à démontrer toujours, parce que ce qui nous reste sont juste des ossements. On n'a pas tous les corps, on n'a pas de charnier, on n'a pas... Donc, réellement, pour être très sérieux, on n'en a aucune.
Dans les crânes, il n'y a pas de traces, en tout cas de violence, par exemple?
On peut trouver, par exemple, le site de Cima de los Huesos, en Espagne, qui a 400 000 ans. Il y a une trentaine d'individus, des squelettes complètement abîmés, avec des marques de violence sur le crâne, qui se sont fait entre eux probablement. Par contre, au moment où Sapiens et Néandertal se côtoient, on voit qu'ils se côtoient, mais on voit aucun drame.
Marlène Patou-Matisse, il nous reste une minute. Il faut quand même dire que vous avez des pièces exceptionnelles, des fossiles originaux au cours de cette exposition, des tout premiers crânes découverts par exemple.
Bien sûr. Donc, pour nous, c'était très important de montrer les originaux pour qu'il y ait un ressenti, que le visiteur ait une émotion. Et là, on a eu la chance d'obtenir des crânes qui sortent rarement, comme bien sûr la pièce principale de Néandertal, donc de l'homme de Néandertal, découvert dans la vallée de Néandertal, près de Düsseldorf. Ça, c'est important. Et aussi, l'homme de Spie, là aussi, ça sort extrêmement rarement. On a reconstitué, alors ça, c'est à nous, mais quand même, le squelette de la Ferrassie, donc Christine Verna, qui est anthropologue, là, nous a bien aidé pour reconstituer. Donc, je pense, pour faire ressentir aussi au public. On a des pièces quand même très importantes, parce que Néandertal, ailleurs, il y a aussi d'autres civilisations. Lyon et à d'autres espèces. Donc on a montré ça aussi, des pièces rares d'Afrique.
Et c'est à voir donc au Musée de l'Homme, grande exposition Néandertal jusqu'au mois de janvier prochain. Mais en attendant, ce soir, donc France 5, 20h50, qui a tué Néandertal? Et vous aurez peut-être la réponse dans Science Grand Format. Et puis Antoine Balzo, guide de survie sur les traces de Néandertal aux chênes, 33 idées reçues sur la préhistoire aux éditions Belin, et Marilène Patoumatis, Néandertal de A à Z chez Alari. Et tout ça, c'est en lien sur la tête au carré pour avoir toutes les infos.
Voilà.
Merci beaucoup. À très bientôt.